Vous écoutez, on lit pour vous.
Invisibilité des enjeux autochtones. Dans le Nord, on est oublié. Un texte de Marie-Laure Josselin et Shushan Bacaon, paru le 17 avril 2025 dans Espaces autochtones. Pour arriver à Constance Lake, il faut passer par Hearst sur la route 11, la plus au nord de l'Ontario, puis prendre à droite à une demi-heure de là. En un coup d'œil, la grosse pierre orange avec l'inscription « Every child matters », chaque enfant compte, indique qu'on s'apprête à entrer dans une communauté autochtone. Constance Lake accueille les visiteurs avec un grand panneau en ce dimanche ensoleillé. Ici, les partis politiques sont venus déposer leurs pancartes. Celle du candidat conservateur est par terre, peut-être à cause du vent qui souffle, mais celle de la néo-démocrate est bien en vue. Il faut dire qu'elle tente de succéder à un député qui a laissé une empreinte marquante en menant de nombreuses batailles pour les Premières Nations du nord de l'Ontario, Charlie Angus, qui part après 20 ans comme député fédéral de Timmins Bay James. Dans cette communauté Ojibwe, les problèmes ne manquent pas. Dans la rue, trois hommes discutent en faisant une promenade, l'un d'eux muni d'un bâton de golf pour repousser les chiens, dont la gestion est un casse-tête dans de nombreuses communautés autochtones. Chaque jour est différent, comme l'humeur du chef. Il oscille entre fatigue, colère, joie, succès. Demain, je me réveillerai et peut-être qu'il y aura un problème de chien. Le lendemain, une surdose, lance le chef Richard Allen. Dans le Nord, on est oublié. Chaque jour, c'est un défi après l'autre. Il n'y a pas assez de victoires en une journée pour compenser les défis que nous avons à relever, dit-il. Le chef Richard Allen a arrêté de couper ses tomates pour filer au poste de police avant de revenir finir sa salade dans sa cuisine où il reçoit spontanément Espaces autochtones. Le problème principal ici? Il a du mal à en choisir un dans cette communauté d'environ 1000 membres dont 60% ont moins de 25 ans. Citation. Tout dépend. Vous pouvez regarder dans une perspective de bien-être et il y a la question des dépendances, l'itinérance, les femmes disparues. Chaque question n'est pas qu'une seule question. Tout est empilé. Il n'y a pas une question précise sur laquelle le gouvernement doit se concentrer. Fin de citation, indique-t-il. Cependant, les problèmes s'accumulent, à tel point que ça devient difficile, répète-t-il. Citation. On passe de l'un à l'autre, mais à l'échelle du gouvernement, il s'agit de savoir combien de financements il va accorder et comment il va travailler avec nous. Fin de citation. Capitaliser sur les faibles. Ces deux chiens, l'un immense et l'autre tout petit, se mettent à japper. Dehors, une femme marche. Nous lui posons quelques questions. Elle habitait Thunder Bay, mais elle est revenue dans sa communauté car elle a perdu son logement en ville. À 5h30 de route de Thunder Bay et à 3h30 de Timmins, les deux plus grandes villes les plus proches, elle dit s'ennuyer ferme car il n'y a rien à faire, répète-t-elle. Elle n'est visiblement pas sobre. D'ailleurs, la consommation de drogue et la circulation de celle-ci dans la communauté constitue le premier souci évoqué par la majorité des personnes questionnées à Constance Lake. Selon le chef, les surdoses sont courantes. Le centre de santé a une clinique de désintoxication et offre de l'aide, mais ce n'est pas assez. Citation. Nous essayons d'apporter notre contribution autant que possible. Il faut une communauté pour guérir une communauté, mais il faut aussi des ressources et des mécanismes de soutien. Fin de citation, affirme-t-il. Les Premières Nations de l'Ontario sont touchées de manière disproportionnée par la crise des surdoses d'opioïdes et le nombre de membres dont le décès a été attribué à une toxicité liée aux opioïdes a triplé entre 2019 et 2021. Toutefois, ce qui effraie bien davantage le chef est la présence de membres de gangs de rue. Citation. Des gens se font prendre le contrôle de leur maison pour vendre à partir d'ici et pour se faire du profit. Fin de citation, dit Richard Allen. Citation. Parfois, on doit les sortir, mais ils continuent d'entrer et d'habiter dans des maisons où ils capitalisent sur les faibles. Fin de citation. Citation. Cela impose un fardeau à nos policiers, à nos dirigeants, à nos membres et à nos enfants. Cela a un impact non seulement sur l'utilisateur, mais aussi sur l'ensemble du système dans la communauté qui est perturbé. Fin de citation, poursuit-il, se demandant où est le soutien du gouvernement, à part la prison. Et sa question, il la pose à la fois pour sa communauté et pour les municipalités qui font face au même problème. C'était « Invisibilité des enjeux autochtones. Dans le Nord, on est oublié », un texte de Marie-Laure Josselin et Shushan Bacaon, paru le 17 avril 2025 dans « Espaces autochtones ».
Des proches laissés à eux-mêmes. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir. Il n'y a personne qui a soupçonné qu'il puisse avoir un geste de violence. Ce n'était même pas une possibilité, lâche en entrevue au Devoir Julien Gendron-Tardif. Son frère, Emmanuel, a pourtant été reconnu non criminellement responsable du meurtre de sa mère, Lisanne Gendron, le 16 avril 2025. Le corps de la femme de 61 ans avait été retrouvé en janvier 2023 dans le logement de son fils, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal. Les premiers signes de psychose d'Emmanuel se sont manifestés 5 mois plus tôt, à l'été 2022. Se souvient son frère. Le cinéaste montréalais ne se sent pas bien. Il se rend au CHUM, où Julien le trouve dans un état de paranoïa totale. Il a peur des affiches sur les murs, il craint d'être contaminé par la nourriture qui lui est servie, il est convaincu que quelque chose de mal va se produire le lundi suivant. Les médecins lui recommandent de faire un séjour à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, anciennement l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, qui offre un programme pour premier épisode psychotique. L'équipe y diagnostique une psychose induite par la consommation de cannabis. Une semaine plus tard, après avoir demandé à sa famille de rencontrer son psychiatre, Emmanuel Gendron-Tardif quitte l'établissement. Ce que le psychiatre nous dit, c'est qu'il fallait vraiment qu'il ne consomme plus, qu'il lui avait prescrit des antipsychotiques, mais qu'il ne serait pas obligé de les prendre toute sa vie, raconte Julien. Il n'y avait pas d'autre diagnostic. Il était vraiment rassurant. L'établissement affirme qu'un suivi serré avec une équipe multidisciplinaire sera offert à Emmanuel. Nous, on était zéro impliqués. Manu avait 28 ans. On devait se fier à ce qu'il nous disait. Notre seule source d'information, c'était lui, poursuit Julien. Si on avait établi des bases solides, j'ose croire que la suite aurait été différente. Avec le recul, je me serais attendu à ce que le psychiatre dise « Je ne suis pas capable de poser un diagnostic. C'est peut-être plus grave, peut-être moins grave. » Plutôt que de balayer ça en disant « S'il arrête de fumer du weed, on est correct. » Ça nous a mis dans la tête que ce n'était pas si grave, déplore-t-il. À sa sortie de l'hôpital, Emmanuel Gendron-Tardif retourne vivre chez sa mère et son beau-père. Il prend ses médicaments, se repose et dit aller mieux. Ce qu'on a compris, c'est qu'au moment où il est reparti en appartement, il a arrêté de prendre sa médication parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il a laissé ses médicaments chez ma mère, explique Julien. L'état d'Emmanuel ne tarde pas à se détériorer. Mi-janvier, ses délires reviennent, mais cette fois, il refuse de se rendre à l'hôpital. Si, en nous, on nous avait dit « voici un numéro de téléphone, un mode d'emploi si ça arrive de nouveau », ça nous aurait aidés. Je me souviens d'avoir googlé en janvier « quoi faire personne en psychose ». Maman a appelé au 811 à des centres de crise. C'était toujours la même chose. Tant qu'il n'est pas un danger imminent pour lui-même ou pour autrui, rien ne peut être fait contre son gré, raconte Julien. L'option d'appeler la police n'est jamais envisagée. Les éléments de dangerosité n'étaient pas là, dit le conjoint de Lisanne, Alain de Mers. Il n'y avait pas de parole pour faire craindre pour sa vie ou celle d'autrui. On ne pouvait pas appeler le 911, renchérit Julien. Ce qui l'étonne, c'est qu'au procès de son frère, deux experts ont présenté comme une évidence que, lors d'une psychose, les proches sont les personnes les plus à risque. Jamais ça nous a été dit. Jamais on ne nous a parlé de ça. Je ne dis pas que ça aurait tout changé, mais peut-être que, si on avait eu ça en tête, on aurait géré ça différemment. En janvier 2023, Julien et sa mère savent qu'Emmanuel a besoin de se faire soigner et, surtout, qu'ils sont les seules personnes à qui il accepte de parler. Ils cherchent donc à éviter le conflit, tout en naviguant dans un contexte très émotif à fleur de peau. Julien raconte qu'après avoir tenté un jour d'amener Emmanuel à l'hôpital, le cinéaste a cessé pendant 2 jours de répondre à ses textos. Faire confiance à un système qui leur a failli. À quelques jours du procès, l'équipe traitante de son frère apprend à Julien que des possibilités de sortie étaient déjà envisagées. Dans sa décision, la juge Di Salvo a d'ailleurs prévu des modalités pour qu'Emmanuel puisse sortir de l'Institut Philippe Pinel, d'abord seul, à l'intérieur de la cour de l'établissement, puis en groupe. Il pourra, dès la mi-juin 2025, se rendre au Tim Hortons voisin de l'hôpital, accompagné d'une personne fiable. « C'est sûr que c'est inquiétant pour nous, » dit Julien. Présentement, son frère est en sécurité et surveillé, mais ces gens-là ne seront pas là éternellement. Il avoue craindre de ne pas arriver à trouver de l'aide et surtout pour sa propre sécurité. Même si on a vécu ce qu'on a vécu, est-ce qu'on serait nécessairement écouté une deuxième fois? Il y a énormément de craintes par rapport à ça. On est aussi dans le néant par rapport à ses possibilités de sortie. Comment? De quelle façon? C'est dur de se préparer. Julien a encore du mal à faire confiance au système qui, selon lui, a mené au drame. Il estime que ce qu'a vécu sa famille en janvier 2023 pourrait très bien se reproduire aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé dans l'aide aux familles, dit-il. C'était des proches laissés à eux-mêmes. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir.
Quel sac privilégié pour l'épicerie? Un texte de Chloé Bourquin paru le 11 avril 2025 dans La Presse. On entend parfois dire que les sacs de coton sont pires pour l'environnement que les sacs de plastique. Qu'en est-il réellement? Demande une lectrice. Au premier abord, d'un point de vue environnemental, le sac de plastique à usage unique ne paraît pas si mauvais que ça, admet d'emblée Elliot Muller, chercheur au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. Le CIREG a réalisé en ce sens une étude en 2017 pour Recyc Québec. Plusieurs aspects ont été considérés. Santé humaine, qualité des écosystèmes, utilisation d'énergie fossile. Et les chiffres sont criants. Pour ce qui est de la consommation des énergies fossiles, il faut utiliser le sac en coton environ 125 fois avant qu'il soit préférable à 125 sacs de plastique. Quand on considère la qualité des écosystèmes, on grimpe à 870 utilisations. Mais le paramètre qui ressort le plus fortement est celui de la santé humaine, qui prend notamment en compte les substances toxiques utilisées lors de la fabrication du sac et la quantité d'eau utilisée. Quand on considère ce critère. Si on fait l'épicerie une fois par semaine, toujours avec le même sac en coton, il faudra attendre 65 à 70 ans avant que cette option devienne préférable, souligne Elliot Moller, comparativement donc à plusieurs milliers de sacs de plastique. Rappelons qu'en juin 2022, le gouvernement du Canada a adopté un règlement pour interdire le plastique à usage unique et en particulier les sacs. Cependant, le règlement prévoit plusieurs exceptions, notamment pour les sacs de plastique utilisés au rayon des fruits et légumes. Une production énergivore. Cela peut paraître étonnant à première vue qu'un sac en coton soit pire que des milliers de sacs de plastique directement faits à partir de pétrole. C'est que sa production est très énergivore. On brûle beaucoup plus de pétrole pour fabriquer un sac en coton que le pétrole qui est inclus dans le sac de plastique, dit Elliot Muller. Également, ce dernier est plus léger et donc nécessite bien moins de matières premières pour sa fabrication et consomme moins de carburant lors de son transport que le sac en coton. Et les autres? Le CIREG a aussi réalisé l'analyse de nombreux autres types de sacs, qu'ils soient à usage unique ou réutilisables. Le sac à usage unique, qui performe le moins bien, est étonnamment le sac en papier, qui nécessite beaucoup de ressources pour être fabriqué, transporté, puis éliminé. Il faudrait le réutiliser près d'une trentaine de fois avant qu'il soit préférable à 30 sacs de plastique. Les autres types de sacs de plastique fins, oxo-dégradables, bioplastiques, etc., étaient à peu près aussi performants que les sacs de plastique traditionnels. Du côté des sacs réutilisables, les sacs de plastique rigides, comme les cabas qu'on peut acheter à l'épicerie, semblaient les plus prometteurs. Même en considérant le paramètre le plus fort, celui de la santé humaine, ils pouvaient être rentabilisés en seulement 2 ans d'utilisation en comparaison avec le plastique à usage unique. Ça semble plus réaliste que les 65 ans du sac en coton, rappelle Elliot Muller. Quelques bémols. Néanmoins, cette étude du CIREG comporte plusieurs limitations, tient à souligner le chercheur. En particulier, elle ne tient pas compte de l'impact des macroplastiques sur les êtres vivants, comme les risques d'étouffement, ni de la pollution par les microplastiques. Aussi, cette étude date déjà de plusieurs années et les critères qu'elle a pris en compte pourraient avoir changé depuis. D'autres options pourraient également être considérées, comme les sacs en lin ou en coton recyclé. « J'ai vraiment hâte qu'on la mette à jour », confie Elliot Muller. Que choisir? Malgré tout, le sac réutilisable reste préférable au sac à usage unique, insiste le chercheur. Mais le piège est d'accumuler des objets réutilisables dont on se sert finalement peu. L'idéal est de privilégier les sacs que nous avons déjà en notre possession, qu'ils soient en coton ou en plastique, abonde Laurie Gagne et Sans Façon, conseillère en communication chez Recyc Québec. Par exemple, on peut utiliser un sac de coton comme sac d'emplette, mais aussi comme sac à main. Si cela nous évite d'acheter un sac en cuir neuf, ça réduit considérablement l'impact du sac en coton. Un sac en tissu en bon état peut aussi servir de sac cadeau, de rangement, de sac à pain ou à différents projets de bricolage. De même pour les sacs de plastique rigide, qui peuvent, par exemple, être prêtés et réutilisés lors de déménagements. Et si on a besoin d'un nouveau sac d'emplette, on peut se diriger vers le seconde main, plutôt qu'en acheter un neuf. Pour ce qui est des sacs en papier, on peut les mettre au recyclage s'ils ne sont pas souillés ou encore les utiliser comme sacs de compost. On peut également réutiliser les sacs de plastique comme sacs poubelles ou pour d'autres usages. Et s'ils sont déchirés ou inutilisables depuis le 1er janvier 2025, on peut les mettre dans le bac de recyclage. En résumé, le mieux est de réutiliser au maximum ce qu'on a déjà et d'éviter d'accumuler quoi que ce soit, conclut Elliot Muller. En savoir plus? 1914. Sur une centaine de nettoyages réalisés sur les berges du fleuve et dans le golfe du Saint-Laurent entre 2019 et 2023, 1914 sacs de plastique ont été récupérés. Source, Organisation Bleue, rapport Pollution Plastique 2024. C'était « Quel sac privilégié pour l'épicerie ?» un texte de Chloé Bourquin, paru le 11 avril 2025 dans La Presse.
Survivre, c'est d'être une femme. Une lettre ouverte de Léa Jade Papineau, parue le 3 avril 2025 dans L'Action. J'entends souvent des histoires de violences conjugales, psychologiques, d'abus sexuels, de « je me suis fait suivre hier dans la rue » ou même « elle s'est fait tuer ». En 2023, 20 590 femmes ont été victimes de violences en contexte conjugal, source, gouvernement du Québec 2025, et ce chiffre me fend le cœur en 20 590 pièces. Un article récent, juin 2015, de la revue Enfance, Famille, Génération, fait référence aux chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS 2013. Celui-ci montre que, dans le monde entier, les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime représentent le tiers. Quand tu dis que tu aimes ta mère, mais tu bats ton amoureuse, ce n'est pas d'aimer les femmes. Pour moi, c'est avoir de la haine, voire de l'animosité face à elle. À toi, qui respectes seulement les femmes que tu trouves belles, qui te disent toujours oui, mais que, dès qu'une te dit non, tu la forces, la frappes, la tues. Je te déteste. Je parle de la violence conjugale faite aux femmes, mais les hommes sont victimes aussi. L'important, c'est de ne pas garder le silence. Peut-être faut-il penser à éduquer les imbéciles. Tu sais, ceux qui me font peur quand je marche seule le soir. La citation de Margaret Atwood dans « La servante écarlate » n'aura jamais autant fait écho. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. La peur ne devrait jamais dicter la façon dont nous, les femmes, vivons. C'était « Survivre, c'est d'être une femme ». Une lettre ouverte de Léa Jade Papineau, parue le 3 avril 2025 dans L'Action.
Les neurosciences à l'aventure, un texte de Clara Villeneuve, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Une équipe de l'Université Concordia a prouvé qu'il était possible de collecter des données concernant le sommeil, la charge cognitive et la fatigue dans des situations extrêmes. Une méthode qui pourrait avoir des répercussions jusque dans l'espace. Suis-je assez éveillé pour conduire? Il est plus de 23 heures. Je le signe ou pas ce contrat? Dans certaines circonstances éprouvantes où se mêlent fatigue et stress, notre jugement peut être altéré sans qu'on le réalise. les conséquences sont parfois néfastes. La grande majorité des accidents proviennent de l'erreur humaine, de notre capacité très limitée à nous rendre compte, de notre degré de fatigue et de l'impact que ça peut avoir sur notre cognition, donc sur notre prise de décision, explique Hugo Jourde, doctorant en neurosciences à l'Université Concordia. C'est pourquoi des spécialistes de la cognition s'affairent à trouver des moyens de déterminer objectivement notre capacité à faire des choix en situation extrême. Mais les voilà alors face à un grand dilemme. Étudier des sujets dans l'environnement contrôlé n'est peu réaliste du laboratoire ou en situation réelle, mais chaotique. Jusqu'à tout récemment, ces neuroscientifiques n'avaient pas le choix. Ils et elles devaient se cantonner au laboratoire. Mais avec l'avancement des technologies, notamment la miniaturisation des capteurs sensoriels, il leur est désormais possible de mener des études sur le terrain. C'est ce qu'ont démontré Hugo Jourde et Anita Paas du laboratoire de neurosciences mené par Emily Coffey à l'Université Concordia dans une étude publiée en novembre 2024 dans le Journal of Environmental Psychology. L'équipe a entraîné des spéléologues aux méthodologies de l'étude lors d'une expédition au Mexique. Les membres devaient ainsi effectuer des tests cognitifs et porter des capteurs cardiaques et des caméras de corps lors de leurs aventures souterraines, caractérisées par des efforts physiques, des périodes d'isolement ainsi que des conditions d'hygiène et de sommeil difficiles. Ça a très bien marché. On a été assez impressionné par la qualité des données biophysiologiques obtenues, se réjouit Hugo Jourde, qui souhaite que son étude serve à faciliter de futures recherches. Dans une étude antérieure, Emily Coffey démontrait que les expéditions spéléologiques sont analogues aux missions spatiales, notamment par l'isolement de longue durée, le confinement et la restriction sensorielle. Ainsi, étudier la cognition lors d'explorations souterraines permettra de mieux préparer les astronautes aux défis cognitifs dans l'espace. C'était « Les neurosciences à l'aventure », un texte de Clara Villeneuve, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science.